Les nuits. Les nuits intimidantes. Les nuits exténuantes. Les nuits exorbitantes. Les nuits exaspérantes. De Radio Grenouille.
Est-ce que toi, Dominique Metz, tu passes aussi tes textes au gauloir, comme par exemple ceux pour un Volman, avant de les éprouver ?
J'abandonne la philosophie ce lundi 21 juillet. La critique balbutie, l'universitaire braille, le commissaire priseur fait monter les enchères. Témoin, Volman l'était et sais-tu. J'ai décidé pour un Volman, comme l'amour se décide. Je suis le témoin. Ce n'est pas une épée plantée entre deux omoplates.
J'abandonne la philosophie ce lundi 21 juillet. J'écrirai Volman quand il s'agira de Gilles Joseph Volman, de Gilles J. Volman, de Volman ou de Gilles et de Volman comme du W. La critique balbutie, l'universitaire Bray. Le commissaire priseur fait monter les enchères. Témoin, Volman l'était et sais-tu. J'ai décidé pour un Volman, comme l'amour se décide. Je suis le témoin, ce n'est pas une épée plantée entre deux omoplates. Des phrases sont exclues, lesquelles, vous verrez. Pas de CJ pour commencer, ni de fin mot pour terminer. Le nom du père est là d'avance et je le refais. La bêtise se demande ce qu'il y a de commun. n'a qu'à lire les évangiles. Marc 9, 2 à 10. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Rue du Temple, on trouvait une plaque. Y était gravé « La quinzaine littéraire ». Volman s'était à côté. « Oh !»« Tas de malin, j'ai le pour un malherbe de Ponge, Francis Ponge, main droite. Je suis gaucher. Je cherche un homme, disait Diogène. Je ne le cherchais pas, il m'a trouvé. » Platon, ceci par exemple.
« Que viens-tu faire ici à cette heure, Criton ? N'est-ce pas encore bien matin ?»«
Si. »«
Quelle heure est-il au juste ?»«
Le jour va paraître. Tout à reprendre, comme l'oiseau s'ébroue. » »«
Qui ferait un fils de n'importe qui ? J'ai deux garçons de plus de 20 ans qui ne sont pas encore mes fils. C'est en cours et peut-être me renieront-ils. Après 60 ans, je ne suis toujours pas ce 22 juillet le fils de mon père qui... S'il a compris qu'il s'était empoisonné toute sa vie durant, n'a pas vu que c'était d'avoir empoisonné les autres et principalement ses proches. Volman disait, je ne sais plus qui a dit...
Qui ferait un fils de n'importe qui ?
Le totem est tabou.
J'ai deux garçons de plus de 20 ans qui ne sont pas encore mes fils. C'est en cours et peut-être me renieront-ils. Après 60 ans, je ne suis toujours pas ce 22 juillet le fils de mon père qui, s'il a compris qu'il s'était empoisonné toute sa vie durant... n'a pas vu que c'était d'avoir empoisonné les autres, et principalement ses proches. Volman disait, « Je ne sais plus qui a dit, plus de pères, rien que des fils. » C'est le totem est tabou, car à l'écouter, le père est singulier, plus de pères, rien que des fils. Les fils s'enrôlent, tambour, major. Les filles de Gisèle. Gisèle, c'est poésie contemporaine en France. C'est ainsi que j'appelle Gisèle. Gisèle, je l'appelle poésie contemporaine en France, et inversement, poésie contemporaine en France, je l'appelle Gisèle. Donc, quand on entend Gisèle, c'est de poésie contemporaine en France qu'il s'agit. Je reprends. Les filles de Gisèle n'en jouaient pas mal non plus. Mieux le plus souvent, elles y étaient originales. Dans la chanson, où elles ne le sont plus, c'est la voix du pire. Hier avait son lot de tricheurs et de menteurs, aujourd'hui rougit, minaude, et voudrait sous le phare nous illusionner. Qui, des fils comme des filles, n'a choisi son emploi jusqu'à s'affubler du déguisement adéquat.
C'est donc de bon cœur que tu m'écouteras. S'il est vrai que tu es en vie, comme tu le déclares, de savoir quelle est mon idée. Mes paroles s'adressent même à toi, comme à un homme qui va écouter ce qu'il attend de savoir.
Eh oui, absolument. À toi de parler.
Dès lors, prends-y garde, car il ne serait certes pas étonnant que j'aie autant de peine à m'arrêter que j'en ai eu à commencer.
Parle, mon bon. Je serai tout oreille. J'étais Socrate ces jours-là, entre Volman et moi, Klebnikov, Tsvetaeva, le mardi, et le jeudi, Hölderlin et Lautréamon. Schwitters, je ne vais pas en remettre une couche, je laisse ces facilités aux journalistes qui ne savent pas plus ce qu'ils disent aujourd'hui Rougi qu'hier Krauss.
Vous connaissez son assassin ?
Je crois, oui. Malherbe. Je crois que c'est lui.
Vous n'êtes pas français ?
Non, pas seulement français. Je suis le 23 juillet. Je parle un français décidé. Mal parti pour écrire un pourrin, Volman. Commentaire que je sépare tout. Commentaire ne sort pas plus de commenter que de commentaire. Mais bien de « comme en terre » et « commentir ». S'il fait quelque chose, c'est qu'il fait le mort. Pourquoi donc ? Parce qu'il y a du mort comme il pleut. Il n'y est pour rien. Voyez les linguistes. Michel Valenzi, qui a écrit 10 paroles après avoir lu Les Inhumations de Volman, édition Alia, 1995, nomme le mort. Comme je voulais écarter la tristesse, je lui proposais...
À qui ?
Que ça n'était pas notre genre, le suicide. Dieu sait qu'elle me susotte, cette idée-là, depuis que je me suis retourné et qu'il est mort. Ça n'a rien à voir, mais c'est comme ça. Je me suis retourné. Il est mort.
Faux.
La faux dite pour avoir l'ivresse. Je ne me suis retourné que bien après sa mort. Il est mort, je me suis retourné. Le commentaire accompagne le mensonge. Quel mensonge ? Celui de l'art. Essentiellement, la séparation. Et comment taire que ça ment ? Ça n'est pas à dire, assurément. Je laisse les romanciers comme Volman, les artistes, à leur devoir. Considérez-moi comme le suivant, un suivant qui ne s'est pas laissé distancer.
Et là, vous autres, que complotez-vous tous les deux de faire ?
Rien. Abstiens-toi de faire de l'opposition.
Entendu, je n'en ferai rien.
La phrase Volman, le rythme Volman, est d'un classique achevé. Classique. Elle sonne comme les fragments d'Héraclite. On en sent la frappe sur une corde tendue à se rompre, ponge, reprenant Maldinet. Achevé, ce ne sont que ruines alentour. Orphée n'a pas à tourner la tête. L'ombre d'Eurydice est loin, très loin, devant lui. Nous sommes le 25 juillet. Le trouble, l'écartèlement du « pour un Malherbe » au « pour un Volman » est situé. Mon vice est ma vertu. Mon tourment est assurément de croire qu'on puisse insérer l'audace et la subversion dans une forme parfaite. Ça, c'est Ponge qui l'écrit. J'ai pris mes dispositions. Les œuvres complètes de Platon, Pour un Malherbe de Ponge, les écrits de Volman, Hölderlin de Peter Weiss, les œuvres complètes de Lautréamont et tout le reste. Ce travail m'effraie. Je n'aime pas travailler. Je ne désire pas travailler. Je désire ne pas travailler. Pour un Volman doit éviter le travail. Musclé, choisi plutôt. De ceux qui ont aimé Volman et qui l'aiment, je connais entre autres le plus sémillant, le plus bosseur, le plus débrouillard. Je serai le plus, le moins. La forme parfaite est précisément celle de l'audace et de la subversion. Ni verre à emplir d'eau, ni prière d'insérer. En attendant le lendemain comme la veille, le journal du jour ou comment panier brûlé, pincer la corde sur les deux bouts de la chandelle partie en 26 juvrier. De l'anticoncept à l'anticoncept, un ouvrage de Volman a commencé par deux exemplaires. L'un pour lui, l'autre exemplaire Méens. Méens, c'est mon nom. C'est le nom de celui qui vous parle, là, nuitamment. Exemplaire, il n'y a pas à dire. Comme c'est émouvant de croiser des jeunes gens. L'un vous demande des nouvelles d'Ouri, de Tosqueyès. L'autre connaît les dialogues avec Lecot de Pavese. Et suggère un troisième, travailler fatigue. On danse. Volman n'est pas une colonne, une obélisque, un fût de chêne au rez-de-bercée. Volman est l'homme séparé et l'espace que vous ne voyez sans les limites qui le bornent et vous hypnotisent. Vous voyez les limites et l'espace de la séparation vous regarde. 1. Malherbe, le nom du père Ponge. 2. Volman, au nom du père, du fils et du saint homme.
Lavorare stanca.
L'international disparatiste a considéré l'échec de l'un, Debord, et celui de l'autre, Volman. L'un qui reproduit la stérilité programmée par la domination dans les rangs de ses opposants, l'autre qui cède et fait le type à l'écart. Il faut savoir ceci. Quand Debord exclut Volman de l'international lettriste pour mode de vie ridicule, Volman lui adresse ce télégramme. L'un n'exclut pas l'autre. On saura que chez nous, l'un est le plus souvent représenté par Debord et l'autre par Volman. Faire l'autre de l'autre jusqu'à l'exclusion n'est pas revenir aux conditions de l'un qui l'exclut. Aussi, l'autre de l'autre que l'un n'exclut pas, l'international disparatiste en son école de Puerto López l'aura noté l'autre côté de l'autre côté. Voilà comme je mâche le travail des jeunes filles qui me reviendront comme j'y reviendrai. Au fond, j'ai tout mon temps, le Volmansland a de l'espace. Quant aux amis qui me somment de nommer la canaille, ils feront bien de ne pas insister.
Il faut pourtant bien le dire, tu n'as pas répondu, prodigieux Phytrion, à ce que je te demandais. Si bien que dans ta conduite présente, châtiant ton père, il n'y aurait rien de surprenant que tu sois agréable à Zeus, mais suscite l'aigreur de Cronos et Uranos.
Du 1er au 31 août 2008. Volman m'a lié. Je le délie d'un ou dédié. Volman m'a lié, je le délivre pour un Volman délié. En quoi m'a-t-il lié ? Potlatch. Oui. Et que m'a-t-il donné ? Ce qu'il n'avait pas, puisqu'il m'aimait. Fils. Je dirais deux mots de lésinhumation. Volman écrivait en page de couverture « Ceci n'est pas un livre ». Comme il avait écrit de son exposition « La peinture dépeinte ».
1. Ceci n'est pas un texte. L'impression donne l'impression d'un texte, mais ce n'est pas un texte. C'est de la peinture dépeinte. Ne faites pas comme si c'était un texte, comme si vous n'étiez pas prévenu. On ne regarde pas la peinture comme si c'était un texte. Ceci n'est pas un texte. Ceci n'est pas un texte. Ne dites pas « c'est bien » ou « c'est mal écrit ». L'écriture n'est pas le critère de la peinture dépeinte. Regardez si chaque mot couleur est à sa place. Inventez une critique de la peinture dépeinte. 2. J'ai quelque chose à dire. Je cherche mes mots. Les mots les plus exacts. L'exactitude et la politesse du mot. Les mots s'alignent pour dire quelque chose. J'ai dit ce que j'avais à dire. Autre chose est la peinture dépeinte. Je ne sais pas ce que j'ai à dire. Je vais dépeindre. Je choisis mes mots. Les mots les plus désordonnés. Les mots se rassemblent dans le désordre. Le désordre, c'est la douleur du mot. Je remets de l'ordre dans la couleur des mots. La peinture est dépeinte. J'ai dit ce que je ne savais pas.
J'éviterai de le citer par bribes. Je ne pouvais donner ici que la page entière, publiée au numéro 342, octobre 1994, de l'Officiel des Galeries. les inhumations, ceci n'est pas un livre. En effet, c'est illisible. Je ne dispose pas de l'appareil critique. Attendez un peu, m'essuie-glace, que je me l'invente. Chacun chez soi, je m'occupe de mes noms du père, les vôtres vous occupent et les vaches sont bien gardées.
Eh bien, les enfants, dites-moi si ce Socrate dont vous me bassinez les oreilles à la maison est bien celui-ci que vous voyez auprès de nous ?
C'est bien lui, père, tout juste, oui. Prenez Volman, m'essuie-glace, sous l'angle de la fumisterie. Allez au plus simple. Volman est un fumiste. S'il écrit sur la couverture du seul livre publié chez un éditeur de livres, et non chez un galeriste-éditeur comme l'a regretté Nan Stern ou le fidèle Jacques Spiès, s'il y fait noter en place de l'image prévue par la maquette « Ceci n'est pas un livre », c'est que ça veut dire quelque chose. Fumiste qu'il est, Volman n'est pas du genre à se fouler. Et ça veut précisément dire ce que ça dit, ce n'est pas un livre. D'où que vous pouvez, m'essuie-glace, vous demander, un, ce que c'est. Deux, ce que c'est qu'un livre. Le journaliste, qui a, comme on sait, un œil de lynx, ce qui lui permet de vous tenir par la main le long des chemins qui ne mêlent nulle part et surtout pas en Pologne, écrit qu'il y a deux parties. La première, intitulée « Les inhumations », la seconde, « Peinture dépeinte ». Bravo, il est nulle part, vous avec, et l'objet à la trappe. Merci Ubu. Je me charge donc pour la énième fois de rappeler que « Les inhumations » est l'intitulé d'une exposition qui a eu lieu sur rendez-vous à la Galerie de Paris. Volman avait pour habitude de présenter ses travaux. Aussi a-t-il écrit quelques pages. Je dois vérifier tout cela. Les 70 paragraphes de « Les inhumations » n'étaient-ils pas dans l'œuvre présentée Galerie de Paris ? Les peintures dépeintes suivaient-elles ces premières pages ? Le journaliste a si bien semé le trouble que je ne suis plus sûr de mon souvenir. Appelons le plus bosseur, boss de Metz.
Attends, soit tu oublié. Tu sais, il est absent, le brave homme. Et en bas de la page, il est absent, le brave homme.
Il est absent, le brave homme. Pour moi, les inhumations et peintures dépeintes sont en continu. Les inhumations participent de l'œuvre et la présentent. Peinture dépeinte suit sans solution de continuité. L'intitulé de l'exposition du 18 mai au 13 juin 1993, « Les inhumations, Galerie de Paris ». Celui de l'exposition du 18 mai au 13 juin 1994, « Les inhumations, peinture dépeinte », 1991-1994, 691 sujets de tableaux, Galerie de Paris, me suggère, et les mots ordonnés de peinture dépeinte, les mots exhumant ce qu'ils couvrent, 8 septembre 1992, de tenir, s'il y a lieu, mon erreur est ferme. Je remplace, pour un Volman, les connaissances qui me font défaut par des hypothèses non fondées. Ce n'est pas là le problème doute. Si les inhumations avaient été un livre, ça aurait été un faux. C'est au pire le jus d'une exposition, son résumé, au mieux son interruption, partie séparée de l'une, soit l'écrit, et l'autre, manquante. Manque le livre et ses inhumations réelles. Manque le vide de la galerie de Paris, vue de la table où était placé le livre. La peinture, si bien dépeinte, qu'on n'en voyait même plus les châssis, seulement le cadre, ce hublot rectangulaire qui donnait sur le sous-sol éclairé net. Était-ce un livre, l'objet placé sur la table que le visiteur sur rendez-vous pouvait consulter pendant une demi-heure ? Non plus. C'était, une fois annoncée la méthode, une fois prononcé le discours de la méthode, notre ami était cartésien, j'en connais qui le lui reprochent, c'était peinture. Et qu'elle fût inhumante n'empêchait pas Volman de la dépeindre. Au contraire. Que fait le fils ? Il retourne au père. Il reprend au père. Il reprend le père. S'il se dupait, n'est-ce pas ? Ça arrive puisqu'il est fils lui-même. Plus de père, rien que des fils, disait-il. Examinez ça. Quand il n'y aurait plus de père, où voulez-vous qu'on trouve des fils ? Voilà bien la fumisterie du jour. Notez que vous n'avez jamais entendu « plus de mère, rien que des filles ».
Si.
Ah.
Ben oui, Rostand et ses grenouilles.
Vous m'y faites penser. Le coup d'épingle, l'ovule scindé, c'est parti. Des filles, des filles.
Eh ouais.
Tonton, plus de mère, rien que des fils. Voilà qui serait plus douloureux.
Pourquoi donc ?
Ma foi. C'est vrai. Quel soulagement. En effet.
Trêve de plaisanterie.
Aujourd'hui, rougis pour un rien. Un pour un Volman pourrait bien mettre à feu mes jours stupides. Tant pis. Demain, l'ange fait au mieux, je vais proser Volman, proser sans date.
Pourquoi cette insistance à faire passer les choses ? Pourquoi cette insistance à les faire passer à travers une zone de perturbation ? Pourquoi cette insistance à travers une zone de perturbation. À travers une zone de perturbation, tout est possible. Tout est possible. Le passage des mots, le silence des mots, le silence. Des mots se passent des mots. Se taire n'est plus en passe de parler. Se taire fait jaser, ou se taire au plus. Il me faut dire ce que je ne sais pas dire, dire ce que je ne sais pas dire et dire ce que je ne sais pas. Je suis seule à savoir dire ce que je ne sais pas. Si je dis A blanc, on se souvient d'Arthur. Si je dis le mot est une couleur, je vais un peu plus loin. Le mot prend la couleur du mot. C'est dit, le mot prend la couleur du mot peintre. Peintre, je prends la couleur au mot, je laisse le mot au poète. Je prends les mots au mot poète. Peintre, je travaille pour les deux, pour le poète. Je travaille au noir pour le peintre. Pour le peintre, je travaille la couleur pour le poète. Pour le poète, les mots se suivent. Pour le peintre, les mots se mélangent. Les mots se mélangent pour se suivre dans le désordre.
Je vérifie que ceci n'est pas un livre parce que ceci n'est pas à lire. Qu'est-ce à dire ? À écrire. La peinture dépeinte doit être repeinte, soit en remettre une couche. Une couche, comme vous savez, nous en tenons une tous autant que nous sommes. De nous l'avouer facilite l'exercice, c'est à n'y rien comprendre que je dois l'écrire et c'est précisément ce que ne nous demandent pas les livres pullulants. La fumisterie de Volman s'accorde à notre connerie dans la douce mesure où d'entrée annoncée, la faire est entendue. J'ai ajouté douce à la mesure car si l'effort est prévu, lui-même dépeint, je n'y ai jamais découvert le sadisme du pédagogue ni les hauteurs d'un retranché. Ce sont mots non seulement français, mais disposés raisonnablement, comme résonnent les dominos. Rien de plus simple. Tentez votre chance à la 6-4-2. Je prose le 11 mars 1993.
La position du lecteur condamne la prose. Mesure le dérisoire. Devine un risque de l'autre côté des mots. La position du lecteur condamne la prose. La prose mesure le dérisoire. Devine un risque de l'autre côté des mots. Des mots, la bouche sépare les courbes. La bouche sépare les courbes somnolentes. Somnolente insulte, bégaiement impensable. impensable, l'idée d'une absence peut être réunie. Réunie, la pauvreté partage l'écriture. La pauvreté partage l'écriture en un mot. En un mot, le réel chante. Ferveur, proximité des contraires, retour au jeu d'enfance. Le sujet dérobé possède un visage.
Ce que je vous dis pour un Volman, le lui fais-je dire. Que je sache comment le lire, je ne vous le fais pas dire. Ce que dépeint pour un Volman, ce que je sais d'un savoir qui m'a peint, inhumé avant l'heure, ou plutôt à l'heure dite, à l'heure qui s'imposait, dès le premier cri, dès le cri d'angoisse du laisser-tomber. Sa chanson, la chanson Volman, une des chansons que j'ai tirées de mes récrits, et particulièrement son refrain, me valide.
Satisfaire. Je dialogue avec les choses et dialoguer c'est chercher. C'est chercher ce que faire me dire. Trouver ce que parler peut faire. Chose faite. Reste à donner la parole. Quand je ne parle pas, l'écriture se tait. Quand je donne ma parole, maman, parole commencée sans moi, maman. J'ai passé l'âge, mais lequel, maman? Parole commencée sans moi, maman. J'ai passé l'âge, mais lequel? La peinture est un effet et destruction. Le meurtre est inutile. Ils vont à un endroit désert. Il ne faut pas qu'une chose soit dite, soi-disant n'est pas dit. Une chose n'est pas dite pour soi, le tout est dans la chose dite. Et redoute de dire les choses, il n'y a pas de doute. Quand vous dites, parlez, vous dire et se taire à la fois. Le dire est le propre de l'homme. Quelque chose à dire, maman. Parole commencée sans moi, maman. J'ai passé l'âge, mais lequel, maman? Parole commencée sans moi, maman. J'ai passé l'âge, mais lequel? L'homme. Délimiter l'homme, tue l'homme avant la lettre. Or c'est l'homme qui fait le mot. Mort! Il fait le mort, l'homme fait le mot. Le mot, la chose, l'homme se repose sur le mot. La peinture est une erreur. Je ne parle pas. tais. Quand je donne ma parole et l'amour, maman, parole commencée sans moi, maman. J'ai passé l'âge, mais lequel, maman? Parole commencée sans moi, maman. J'ai passé l'âge, mais lequel?
Je ne saurais masquer pourtant le désarroi. Qui s'approche impunément d'un foyer ? On se souvient de la longue préparation des piétineurs de brasier, d'où l'aimable tentation de la thèse qui noie la flamme et brasse les fumées. L'autre méthode créative est de taper du poing sur la table. La chose est faite et Malherbe fait le mort. La chose est dite, on n'y reviendra pas. Qu'on y revienne, elle se dégrade. Je vais faire mon feu ailleurs. Théorie du brûlis s'il restait quelque chose des jardins amazoniens. Malherbe trépasse, pousse une académie. La langue française, au bout de sa poésie Malherbe, Ponge n'est pas poète, ah ça non. Est-il une feuille tout là-haut du baobab, comme dit le Brassinga? Anneke Brassinga, dicht greu en néerlandais. Pousse poème. L'image est tentante. Il l'attente. Deleuze arrive, qui n'aime pas les arbres et leurs racines, qui demande de la fibrille, de la radicelle, de l'étendue, de la steppe, de la savane, bien tricotée, détricotée. Volman s'en fiche éperdument et se perd. Sans routine. Je prose le 12 mars 1993.
Tradition perdue au seuil de l'oral, le jeu entre en jeu. La pensée aux prises de la raison commente la réalité, discute la peur sans peupler la colère, entoure la marge sans cesser la limite. Le pouvoir de projection explique la disparité. Affaire de la peinture, l'affaire de son sujet, un personnage morcelé découvre autre chose. Autre part, autrement. D'un autre côté, la chose découpe la peinture, s'empare du sens large des mots. Chaque période invente sa différence. La signification représente la routine.
À force, tout cela devient simple comme bonjour, lumineux comme un adieu puisqu'il meurt. Il meurt, oui, mais comme tout le monde. Qu'il meurt ne prouve rien. Malherbe est bien mort, et avant lui. Ces gens-là, pour un Malherbe, Ponge, et pour un Volman, Méhens, si je puis me permettre, ne gravent pas leur pierre tombale. Si la mort est en jeu, elle n'a pas un mot à dire, et que dirait-elle? La mort est parence tout autant que le reste. Le monde muet, Francis Ponge, tu parles. La terre fait un tel vacarme que les dieux n'endorment plus. Donc, ça n'est pas ça. Erreur sous toute la ligne de la fabrique du Pré. La mort est tentante. Elle explique tout.
Tu es drôle, Hippothalès. Avant d'avoir vaincu, tes poèmes, tes chansons célèbrent ta propre louange.
Allons, Socrate. Pas du tout. Ni dans mes poèmes, ni dans mes chansons, il ne s'agit de ma propre louange.
Tu ne le sais pas, au moins.
Et comment cela se pourrait-il ? Dis-moi !
C'est à toi plus qu'à tout autre que s'adressent ces chants.
Il y a tout de même une histoire. On trouve toujours une histoire à bafouiller en farfouillant. Ainsi, Von Mann, Gilles Von Mann, s'ennuie. Saisit un livre qui traîne, regarde les pages du livre, voit les mots, les sort du livre, pas tous, les dépose ailleurs sur une autre page. En somme, il réécrit ou il décrit le livre. Les mots choisis refont la gigue, voit-il. C'est le livre des mots. Il les éloigne qu'il ne puisse refaire ce qu'il a voulu défait. C'est During, During, nous étions contre le pouvoir des mots, contre le pouvoir. De cette rythmique nouvelle, à laquelle il s'est exercé l'oreille et l'œil et la main, je décris la trace des 12, 15 et 17 octobre 1993.
Flottement, différence, entrée, hôpital, sens, je signe, raison, réécriture, absence, passage, position, trait, rupture, temps, discours, pouvoir, choix, lecteur, écoute, lieu, définition, savoir, guerre, guérilla. Écriture, acte, temps, image, décombre, parole, cœur, question, 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 cœur, richesse, exil, terme, création, fait, mot. Cécité, couleur, fin, trait, dimension, souvenir, perte, sens, détachement, filiation, constance. Écriture, abandon, méandre, histoire, rupture.
À ne reprendre que les articles comme j'ai pu le faire pour Le Grand Leader, alors là, je dois nuitamment intervenir, parce que je dois vous expliquer ce que c'est que cette histoire de Grand Leader. Eh bien, c'est très simple, je travaillais à une époque dans des services dirigés par des communistes qui recevaient régulièrement de la documentation de l'ambassade de Corée du Nord, n'est-ce pas ? Documentation publicitaire, évidemment. Et j'ai décidé d'en faire quelque chose avec un ami compositeur que nous allons écouter. Et ça s'appelait ce quelque chose, ça s'appelait Le Grand Leader. Bon. Parce que c'était ainsi qu'était traduit, je suppose, le nom du secrétaire général du Parti communiste coréen. Quand on le traduisait en français, ça donnait ça, le grand leader. Voilà. Et comme c'était extrêmement répétitif, vous vous en doutez, eh bien, je me suis dit, tiens, un moment, c'est vraiment trop agaçant, je ne vais prendre que les articles. Et donc, voilà ce que ça donne.
Des A, de le, un A, d'une la, le, du dans le, au, le, du A, du de la, d'une, dans les, de la, au, de la, du une, de un, la, le, de la, du, de la, des, le, des.
Le gravier, du gravier, l'X, du Y, la Z, d'une W, n'est-ce pas ? La colle génitive des mots français. Pourquoi Volman, qui savait d'où il venait comme il voulait en venir, insiste ?
Ceci n'est pas un livre.
Ceci n'est pas un texte. Ne dites pas c'est bien ou c'est mal écrit. Je ne le dis pas. J'écris pour un Volman avec le contre un Volman dans l'ombre. Malherbe suivit comme son ombre. Et maintenant que vous savez lire, à l'issue de ce cours d'une heure, le 7 septembre 1991, sans les mains, les miennes, collantes, qui déjouaient leur scotch.
La création est un jeu d'enfant. Pour les autres, c'est un travail. La folie met le haut là où l'homme met la création. Dit la peur de la mort à peur de la folie, la. Il faut plus d'audace pour le dire que pour le faire. La création va aux portes de la folie sans ouvrir la folie aussi, mais aux portes de la création. Il y a dans la création un maître mot et un travail d'esclave. On croit tenir le mot, on ne maîtrise que son travail.
Quelques-uns ne m'ont pas suivi. Allons que je leur mâche le travail. La création est un jeu d'enfant. Pour les autres, c'est un travail. La folie met le holà où l'homme met la création. La création dit la peur de la mort. La peur de la mort a peur de la folie. La mort a peur de la folie. La folie la tait. Il faut plus d'audace pour le dire que pour le faire. La création va aux portes de la folie sans ouvrir. La folie aussi, mais aux portes de la création. Il y a dans la création un maître mot et un travail d'esclave. On croit tenir le mot. On ne maîtrise que son travail.
Non. Nous ne conduisons pas notre recherche comme il faut, Socrate. Et je le vis rougir, car ces mots lui étaient venus sans qu'il l'eusse voulu vraiment, né de l'intense attention qu'il avait prêtée à ce qui s'était dit.
Vivre ne ressemble à rien, ni personne. Mourir ne ressemble à rien, ressemble à quelqu'un. Vivre et mourir vont en bateau, vivre tombe à l'eau. Il ne me reste plus qu'à mourir, mon amour. Le doute est une arme blanche, la blessure de mourir saigne à blanc. Vivre est inquiétude, plus vivre s'inquiète, plus il vit. À la longue, vivre est une habitude, un geste irréfléchi. Vivre est à tous les étages, au dernier étage de vivre, il y a un vieux, il s'accroche, mourir s'approche des mains. Derrière le dos, l'air détaché du contexte de vivre. Ceux qui confondent vivre, vivre et la vie. On fait mille pas pour rien, ils ont marché sans vivre. Ceux qui confondent vivre, vivre et la vue. On fait mille pas pour rien, ils ont marché sans vivre. Vivre ne ressemble à rien, ni personne. Mourir ne ressemble à rien, ressemble à quelqu'un. Vivre et mourir vont en bateau, vivre ton ballon, il ne me reste plus qu'à mourir, mon amour.
Ponge a connu son père s'il n'a pas croisé Malherbe. La taille de la barbe et la géographie imaginent ce qu'il faut pour tenir l'un à l'autre. J'ai connu mon père et Volman. L'imaginaire ne s'en porte pas mieux. Le coup de pouce du second, je l'ai vite fait verser au compte symbolique. Le deuil s'en trouve-t-il plus consolable? Je vous avoue, m'essuie-glace, qu'il ne facilite pas la lecture d'un pas un livre, la vue d'une peinture dépeinte, et souligne le vide bavard des séparations. On se demande, à raison, ce que Ponge gagne à fréquenter l'atelier du patron, ce qu'apprend Juliette chez Bram, Qu'ai-je appris? Qu'ai-je su? Que ne pourrait apprendre, que ne pourrait savoir l'ami qui n'a pas côtoyé Volman, puisque c'est dépeint. Ponge n'a-t-il pas couru les biographies et les correspondances? Quand il écrivait son « Pour un Malherbe », que pensait-il y découvrir? Que voulait-il y vérifier? Puisque c'est écrit. Je ne suis pas une preuve et n'en pense pas moins. Je n'ai aucun point commun avec Ponge, et Volman n'en a aucun avec Malherbe. D'abord, Volman n'est pas poète, et je ne suis ni de vocable, ni de parole. Ensuite, Ponge inaugure Pompidou, et réciproquement. Volman, goguenard, est à la salle. Enfin, Ponge attend de la tension lyrique la signification, quand Volman accueille la beauté de ses déchirements, où le lyrisme prend une envergure autre que chansonnière. Ce qu'il m'a suggéré au temps de ses inhumations. Si j'avais à suivre le pas à pas du nom du père Ponge, ô funèbre tambour, j'écrirais une radiophonie. Mais enfin, passons aux choses sérieuses. Page 144 et suivante de « Pour un Malherbe ». Je vous rappelle donc que nous disposons, tout ce temps que nous sommes, de ce « Pour un Malherbe » durant toute cette nuit exaspérante. Car les dépendances du sujet ne sont pas indicibles ou ineffables. Ce que j'appelle la machine Lambert-Lifico, c'est-à-dire ce que d'autres appellent le sujet et d'autres appellent « je », n'est-ce pas ? La machine Lambert-Lifico broie le noir des dates et des lieux. D'être pondu le 17 novembre 1951 vous oblige. Ponge jette ses premières notes pour un Malherbe du 21 juin au 11 octobre 1951 précisément. Et Volman réalise l'anticoncept la même année. Quant à la fumisterie, dont on se gardera d'oublier qu'elle a quelques rapports avec le père Duchesne, lui-même fumiste ordinaire de Sa Majesté, ainsi qu'avec Rimbaud, maintenant établi marchand à Aden, qui parle de son passé comme d'une énorme fumisterie. La pensée qui saille l'esprit ne s'intègre pas dans la raison, elle est fumisterie. Le dépassement de soi, fumisterie, germe toutes les créations. Ça, c'est une citation signée Volman, qui conclut « Introduction à Volman » parue en 1950. La date ici objecte au Parnasse intemporel et Bardad Bayader al-Falbala majuscule Ponge. Quand l'histoire leur vient aux Basques, Ouida, les fils qu'ils n'ont pas eus, les pères déclarent un panthéon universel où cadenasser leur nom parmi d'autres majuscules. Ordre, beauté, luxe, volupté, Ponge. Volman n'a jamais prononcé une seule majuscule. C'est déjà tricher que de lui en mettre une. Et pourquoi ces revendications d'éternité? Pierre-Jean Jouve, dans une lettre à Jean Paulhan, qu'on peut trouver dans sa correspondance qui est publiée aux éditions Claire Paulhan, ça s'appelle « Lettre à Jean Paulhan, 1925-1961 », c'est page 134, et ça a été édité en 2006. Alors écoutez ça, une manière de répondre à cette question. Et pourquoi ces revendications d'éternité? Comment concevoir que l'œuvre d'art, pour atteindre la forme éternelle, doive en tout cas passer par la forme personnelle originale? Comment l'affranchissement du temps est-il obtenu par l'intégration la plus forte dans le temps ? Etc., etc. Etc., etc. Gombrowicz, Witold Gombrowicz, au secours ! À moi, Philistri ! Fils pour toujours, fils éternel, m'essuie-glace, le fils un jour ou l'autre est père, l'éternité est une invention macabre. Volman n'est pas éternel, et pour un Volman ne vise pas à éterniser la forme Volman. Il n'y a d'éternel que le retour, et qui s'en retourne. La nostalgie est l'exact opposé de la persuasion. Aujourd'hui persuadé, voilà l'éternel retour auquel on ne tient pas. Il faudrait en rougir ensuite, de n'y avoir pu tenir quand tout s'organise pour la fuite. En avant !
Tu es toujours le même, Apollodore, toujours à dire du mal des uns et des autres comme de toi-même. À croire que tous les hommes, à commencer par toi, sont bel et bien des misérables, tous. Excepté Socrate.
Et parce que je pense ainsi, à mon sujet comme au vôtre, je suis évidemment un fou furieux, un homme qui déraisonne.
Ça va, pas de dispute aujourd'hui. Raconte.
Page 144 et suivante, donc, de « Pour un malherbe », Ponge évoque quelques personnes... Manifestations et choses.
Les Fleuries, 31 décembre 1954. Une petite phrase d'un tract de l'Internationale lettriste m'a définitivement alertée, voici quelques jours. Il semble que pour ces jeunes gens, la nouvelle poésie, prônée par Aragon et pratiquée depuis quelque temps dans les lettres françaises, ils prétendent d'ailleurs la combattre, constitue un événement important. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle poésie ? N'y devrais-je porter plus d'attention ?
Le 31 décembre 1954, Ponge devait avoir entre les mains le potlatch numéro 15 du 22 décembre. J'y lis ceci de Michel Bernstein.
Heureusement, la poésie, si l'on accepte son dépassement dans les sonnets des lettres françaises, s'est tue. Après les provocations de la poésie onomatopéique.
Je trouve dans un numéro plus ancien, le 9-10-11 du 17 au 31 août 1954, sous-titré avec humour « Numéro spécial des vacances », ceci qui concerne de près la question.
La théorie de l'art réaliste socialiste est évidemment stupide. Cependant, si tel chromo produit en URSS ou à côté peut amener une fraction peu évoluée du prolétariat à prendre conscience de quelques luttes à vivre, nous le tenons pour plus valable que telle apparence de recherche pour la 100 000e fois abstraite, non figurative ou signifiante de l'informel. Imbécile, qui accable les galeries parisiennes et les salons de la bourgeoisie New Look. La poésie française ne nous intéresse plus. Nous abandonnons la poésie française et les vins de Bourgogne et la Tour Eiffel aux services officiels du tourisme. Nous ne devons pas donner à penser que nous défendons cette poésie.
C'est assez clair, il me semble. Ponge, de son côté, s'égare.
Je vois bien que l'Internationale lettriste est l'organe de ce qu'on appelle un groupe crypto, en tout cas très infiltré par les communistes orthodoxes et probablement plus que noyauté, vraiment manœuvré par eux. Mais pourtant...
Mettons que je lui pardonne. Il en vient au fait.
N'empêche qu'il...
Malherbe
a été dans une certaine mesure responsable de l'ordre, du totalitarisme Louis XIVien.
Je vous prie de lire la suite dans ce livre que je vous ai dit, le « Pour un malherbe Ponge ». Un Ponge qui ne veut pas en être du totalitarisme et qui rejoint d'un certain biais désolant les jeunes gens, dont Volman, à qui les rapports sociaux déplaisaient.
Oui.
Dit-il, dit Ponge.
Nous travaillons à une nouvelle raison, Mais non, ce n'est pas celle qui nous est ordonnée par Marx ni Hegel.
L'archi-coup connu du bébé de l'eau du bain, du chien de sarrage et j'en passe.
Oui, nous marchons contre et avec Baudelaire, Nietzsche et Rimbaud, mais non en faveur du retour aux anciens genres, sonnets, odes, etc. Contre Aragon et la poésie tsariste.
Vous ai-je appris que le sonnet n'était pas un genre ?
Oui, nous travaillons à un renouvellement des esprits, mais non en ce qui concerne les rapports sociaux. Si, quand même. Plutôt en ce qui concerne leur rapport avec le monde muet.
Et comment travailler autrement ? C'est le moment de situer le déplaisir qui m'est venu plus haut. Il y a un point où les choses déplaisent. Lacan, 4 juin 1969.
Oui, nous travaillons à une nouvelle conception de l'homme par l'homme, mais non selon la vieille idée d'une suprématie ou précédence quelconque de l'homme sur les autres espèces. Oui, c'est l'homme de l'objet que nous préparons, et non l'homme d'un nouveau dogme. Oui, nous entrerons dans un nouveau paradis.
Dante, Vérone !
Mais non au paradis de l'homme, plutôt au paradis ou au jardin des raisons adverses. Au paradis de la variété, du fonctionnement, du libre et virtuose jeu, de la jubilation étrusque, de la gambade, de la danse, de la saltation universelle. De la bouffonnerie.
Écho et quelle à la fumisterie Volman. Ah bon, je les lisais, c'est lettriste de l'international.
Au sens shakespearien, celui de la tempête, du songe, de la nuit des rois, universel. Oui, la raison a plu au prix. Oui, Malherbe, Horace, La Fontaine, Rameau. Oui, Cézanne, Mallarmé, Seurat, Satie, Lautréamont, Roussel, Marcel Duchamp, Ravel, Stravinsky, Picasso. Oui, Parade. Oui, l'ironisation du musée de l'homme par Picasso. Oui, les bons maîtres, ceux-là, non les mauvais, de Ronsard à Michaud.
Oui, Volman. Et non. Non, Ponge. D'abord, pour commencer, ce télégramme que vous avez reçu le 27 septembre 1955.
Ah, Ponge, tu écris dans Preuve, canaille, nous te méprisons. Signé International Lettriste.
Et ceci, ensuite, que vous datez de 54, une remarque de 55. En effet, le numéro de Potlatch qui vous aura alerté pourrait bien mieux être le numéro 24 du 24 novembre 1955 avec un panorama intelligent de l'avant-garde à la fin de 1955 où je lis, au chapitre Poésie, ceci.
La disparition presque totale de cette activité, sous la forme qu'on lui connaissait depuis ses débuts, disparition évidemment liée au dépérissement continu de l'esthétique, est un des phénomènes les plus marquants qui se produisent sous nos yeux. Durant ces dernières années, la poésie onomatopéique et la poésie néoclassique ont simultanément manifesté la dépréciation complète de ce produit. Malgré l'attachement normal d'une société mourante à des expressions faisandées, il est à noter qu'aujourd'hui, une revue sérieuse n'ose plus publier de poèmes. Quand elle s'y essaie, avec une évidente mauvaise conscience, voire un certain Duboucher dans le numéro 117 des temps modernes, les résultats se passent de commentaires. Au nom du renouvellement progressiste de Copé-Lamartine, Guillevic vient de prendre les risques d'une explication à la Loyale. Expliquons-nous sur le sonnet « Nouvelle critique » numéro 68, qui fait éclater sa burlesque insuffisance. Passons sur l'aspect cocardier du panégyrique, notre sonnet, cette forme, n'est pas une création artificielle par hasard jetée par Marot, Dubélé, Ronsard et les autres. Si elle a été employée par eux, si elle a traversé plusieurs siècles, c'est bien qu'elle répond à des nécessités de l'esprit français. Puisque Guillevic a beau mentir, il vient trop tard. Tout le monde sait que nous avons emprunté cette forme à l'Italie. Et qu'à l'époque, des médiévaux attardés devaient en rester à la balade, préférant, comme Guillevic aujourd'hui, lutter contre l'envahissement de la culture cosmopolite. Plus significative est la référence à la vie d'un des hommes les plus sensibles, les plus nobles, les meilleurs, les plus grands que le monde ait connu. On a peine à le croire, mais il s'agit de Louis Aragon. Dans ses lourdes tentatives pour conférer quelques dimensions mythiques à la vie d'Aragon, Guillevic va si loin, au-delà de son talent, qu'il arrive à gravement desservir son lugubre chef de file. Je revois Aragon un certain soir de janvier 1954. J'entends son exclamation « Elsa, il écrit des sonnets !» L'ensemble de l'argumentation est de la même encre. Reste de tant de vide que des gens qui se recommandent du matérialisme dialectique fondent toutes leurs malheureuses idées sur l'exaltation inconditionnelle des formes fixes. Les formes fixes, au sens de cadre, répondant aux besoins d'un travail donné, qu'il convient de pratiquer, pourront être momentanément le procès-verbal de dérive, le compte-rendu d'ambiance, le plan de situation.